France Inter.
Bonjour à tous. Nous, anciens chefs de la sécurité, vous demandons d'arrêter la guerre à Gaza. Une tribune signée par près de 600 anciens généraux et maîtres espions israéliens. Ils demandent à Donald Trump de faire cesser les frappes. La pression monte d'un cran autour du gouvernement de Netanyahou. Le plastique, pas fantastique. Un danger grave et croissant pour la santé humaine et planétaire. Alerte aujourd'hui les scientifiques à l'aube de négociations mondiales de la dernière chance à Genève. Et puis aussi une possible affaire de soumission chimique découverte à Dijon. L'un des hommes présents alerte la police. Les syndicats vont debout après l'annonce d'un nouveau texte contre la fraude sociale. On ira aussi sur la Méditerranée. Les bateaux de croisière font un carton malgré l'enjeu écolo. L'équipe de France de basket entame sa préparation à moins d'un mois de l'Euro après l'argent l'an dernier au JO. Et puis le rappeur Jules fait parler de lui ou plutôt de l'intelligence artificielle. Ils ont incarné durant parfois des années la sécurité au sein d'Israël. Et ce matin, c'est presque 600 anciens hauts responsables exhortent Donald Trump à faire pression sur le Premier ministre israélien pour que les frappes sur Gaza cessent. En direct de Jérusalem pour France Inter, on vous retrouve Michel Paul, bonjour.
Bonjour Fabien, bonjour à tous.
La pression s'accroît sur Benjamin Netanyahou.
Et en tout, ils ont plus de 1000 ans d'expérience cumulée et ils sont plus de 550. Alors ce sont d'anciens responsables de haut rang de l'armée, des services secrets intérieurs, le Shin Bet, et extérieurs, le Mossad, comme Tamir Pardo, ancien chef du prestigieux service de renseignement.
Nous nous camouflons derrière un mensonge que nous avons créé, un mensonge qui est présenté au public israélien et à mon grand regret, le monde a déjà compris que ce n'est pas la réalité.
Ils écrivent à Donald Trump et présentent un clip vidéo destiné, lui, au public israélien. « Arrêtez la guerre à Gaza », exhorte ce courrier du mouvement des commandants pour la sécurité d'Israël. Alors, c'est signé par des chefs espions, militaires, policiers et diplomates et rendu public la nuit dernière. « Nous avons le devoir de nous lever », alerte Ami Ayalon, un ancien directeur du Shin Bet. Amos Malka, lui, est un ancien chef des renseignements militaires.
Tout d'abord, Israël doit présenter un projet d'accord global raisonnable, pas quelque chose qui, à l'évidence, sera rejeté par la partie adverse. Trouver une formule pour libérer les otages. L'armée doit se retirer sur un périmètre acceptable autour de Gaza et ensuite mettre en place un système de gouvernance civile avec les États-Unis, les pays du Golfe et d'autres.
Nous considérons en tant que professionnels que le Hamas ne représente plus une menace stratégique pour Israël, concluent les signataires de cette lettre.
Michel Paul, RFI pour France Inter. Et ce matin, le gouvernement israélien indique vouloir mettre le sort des otages israéliens encore retenus à Gaza au cœur de l'agenda international. L'inquiétude en Syrie après la mort de 4 personnes à Souweida dans ce qui semble être une reprise des affrontements communautaires entre les Druzes et les Bédouins sunnites. Malgré le cessez-le-feu entré en vigueur mi-juillet, après une semaine d'affrontements sanglants, plus de 1400 morts, il suffit d'une étincelle, vous allez entendre, pour relancer le conflit. La ville de Souweida, à majorité druze, vit comme assiégée et connaît de lourdes pénuries. Reportage de la correspondante d'Inter en Syrie, Manon Chaplin.
Le checkpoint de Bosra est rempli d'hommes en armes. Depuis le cessez-le-feu qui a mis fin au combat entre clans bédouins et factions armées druzes, les forces de la sécurité générale ont été déployées là, l'un des seuls points d'entrée vers Souweida. Plus personne ou presque n'est autorisé à entrer, ni même les journalistes. Ce combattant invoque des raisons de sécurité.
Les druzes sont dehors la loi, ils font n'importe quoi. Ils vont vous cibler, c'est sûr. Je pense qu'il n'y a qu'une solution, entrer par la force.
La route est barrée d'une immense butte de terre. De l'autre côté, un no man's land, puis Souweida, barricadé depuis 2 semaines. Une femme bédouine et son fils déplacés attendent là. Elle regarde en direction de ses terres.
On est sorti de Souweida car il y avait les attaques, la guerre. Depuis, on dort dans une école. Souweida, pour nous, c'est fini. On ne peut plus y rentrer. Il n'y a plus aucun bédouin à l'intérieur.
Sur les réseaux sociaux, la communauté druze accuse le gouvernement de vouloir limiter l'accès à l'information. À l'intérieur, la population manque de tout, eau, nourriture, essence. Une des journalistes habite à Souweida, nous la contactons par téléphone.
La situation est vraiment préoccupante. J'étais à l'hôpital, toutes les personnes avec qui j'ai parlé m'ont dit qu'il y avait de sérieuses pénuries de matériel médical.
Hier, les combats ont repris entre forces du gouvernement et factions armées druzes, qui appellent aujourd'hui en majorité à la sécession. À la frontière de Souweida, Manon Chaplin pour France Inter.
Et signe de cette défiance de Damas, la reprise des violences dans la province de Souweida est intervenue après l'annonce par les autorités de la tenue d'une première réunion réunion du comité mis en place pour enquêter sur les affrontements de juillet. Le Kremlin appelle à la plus grande prudence dans les menaces nucléaires après le déploiement vendredi par Donald Trump de 2 sous-marins dans des zones dites appropriées. La Russie dit aussi aujourd'hui attendre avec impatience la visite de l'émissaire américain Steve Witkoff prévue cette semaine. Elle sera importante et utile, réagit Moscou. Si nous ne faisons rien, la quantité de plastique va tripler dans le monde d'ici 2060. Après l'appel de Nice en pleine conférence sur les océans en juin pour un traité plastique ambitieux, voici venu le temps des discussions à Genève. 7 mois après un échec en Corée du Sud, les Nations Unies se retrouvent dès aujourd'hui. Il y a urgence à aboutir à un traité mondial contre la pollution plastique, lancé l'un des dirigeants de la fondation Tara Océan ce matin dans la matinale d'Inter. Au moment où, bonjour Célia Kiré.
Bonjour Fabien.
Au moment où une trentaine de scientifiques lancent un appel au nom de l'environnement, mais surtout de la santé.
Oui, car les effets de la pollution plastique sur la santé sont sous-estimés et ils coûtent cher, plus de 1500 milliards de dollars par an selon ces experts qui lancent un appel dans la revue médicale The Lancet. Selon ces médecins, ce sont les enfants les plus vulnérables et les personnes les plus précaires. D'abord, les ouvriers qui sont en contact avec des plastiques. Il y aurait 35 000 décès prématurés chaque année en raison de leur exposition. Ensuite, les microplastiques sont présents partout dans la nature, le corps humain, le sang, l'urine, le lait maternel. Non seulement certaines molécules sont toxiques si on les boit, si on les ingère, mais ces particules servent aussi de radeaux, d'habitat à des bactéries pathogènes. Elles s'y accrochent. Les plastiques sont constitués de plus de 16 000 substances chimiques. Toutes ne sont pas toxiques, mais un quart sont hautement dangereuses et 1500 sont classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Or, les données toxicologiques sont largement insuffisantes. Ces chercheurs annonce donc aujourd'hui un suivi plus régulier. Chaque année, ils mesureront de plus près la présence de ces microplastiques dans l'environnement, les sols, l'eau, la nourriture, les emballages et dans l'organisme. Les dirigeants devraient être mieux informés des dangers de cette pollution passée trop souvent sous les radars.
C'est Liakiré, le vortex de plastique dans le Pacifique Nord s'accroît de plus en plus vite, 25% de croissance chaque année en moyenne pour ce qu'on appelle dramatiquement le 7e continent. Une possible nouvelle affaire de soumission chimique à Dijon, 7 mois après le verdict dans l'affaire Dominique Pellicot. Un sexagénaire mis en examen, soupçonné d'avoir fait violer sa femme. Bonjour Sarah Guibaudot.
Bonjour.
Chef du service police-justice de France Inter. C'est un des hommes qui a eu des relations sexuelles avec la victime qui a donné l'alerte.
Oui, jeudi dernier, cet homme de 23 ans se rend à ce qu'il pense être une soirée avec un couple libertin. Mais il s'aperçoit que la femme âgée de 44 ans n'est pas dans son état normal. Et c'est assez rare pour être souligné, surtout après le procès Pellicot qui a vu la condamnation de 46 hommes pour viol, le jeune homme appelle le 17 peu avant 3h du matin pour raconter ce qui vient de se passer. Les policiers se rendent immédiatement sur place, ils interrogent la femme et interpellent son mari âgé de 62 ans. La femme ne se souvient de rien, elle a consommé de l'alcool, des analyses sont en cours pour savoir si elle a pu absorber une autre substance. Après plusieurs auditions, elle a décidé de porter plainte. De son côté, le mari déclare qu'ils ont des pratiques dites libertines depuis 5 ou 6 ans. L'enquête va s'attacher à rechercher de possibles violeurs sur cette période. L'époux a été mis en examen samedi pour viol, avec la circonstance aggravante d'avoir administré à la victime une substance de nature à alterner son discernement ou le contrôle de ses actes. Il a été placé en détention provisoire.
Sarah Guibaudot, service police-justice de France Inter. 3 personnes recherchées après la mort d'un homme tué par balle lors d'échanges de tirs la nuit dernière dans la banlieue de Lyon. Les 3 suspects ont ensuite pris la fuite, l'un d'eux est blessé. La France face à un tsunami blanc selon le ministère de l'Intérieur. Rapport à la prolifération de la cocaïne, il n'y a désormais plus de zones blanches sans offre de drogue dans notre pays, selon un rapport de l'OFAST, l'Office anti-stupéfiant, qui évoque une menace pour notre pays. Sur les 6 premiers mois de l'année 2025, les saisies de cocaïne ont atteint un record, plus 45%. Le recours aux tueurs à gages est de plus en plus fréquent. Intégrer les revenus liés au trafic de stupéfiants dans le calcul des aides. C'est l'un des volets du projet de loi de lutte contre la fraude sociale, détaillé ce week-end par la ministre du Travail et de la Santé, Catherine Vautrin. Elle souhaite plus largement que la Sécu ait accès à l'ensemble du patrimoine de tous les bénéficiaires. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Un plan qui fait forcément réagir les syndicats. D'accord pour dénoncer certains actes, mais qui demande de la mesure.
Oui, lorsque la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités dénonce une trahison de la part de ceux qui fraudent au détriment de celles et ceux qui cotisent, les syndicats comme Dominique Corona à l'UNSA ne lui donnent pas complètement tort.
Sur ce point, Madame Vautrin a tout à fait raison. Quand on fait de la fraude sociale, on vole effectivement l'ensemble des assurés sociaux. Donc 12 milliards d'euros de fraude sociale, c'est inacceptable en France. Mais sur ces 12 milliards d'euros, c'est 66% qui sont de la faute des employeurs et des professionnels de santé.
Des professionnels de santé qui parfois, de manière involontaire, prescrivent des actes ou se font rembourser d'autres actes, voire se font rembourser plusieurs fois, ou des entreprises qui ne paieraient pas toujours les cotisations sociales qu'elles doivent. Tout est dans le dernier rapport du Haut Conseil pour le financement de la protection sociale, selon les syndicats, qui déplorent cette fâcheuse impression que ce sont toujours les mêmes qu'on chercherait à stigmatiser. Jocelyne Cabanal en charge de ces sujets à la CFDT.
On le voit encore quand il s'agit de taper sur les plus faibles, on a les informations tout de suite, c'est précis, c'est extrêmement dur. Et quand il s'agit d'avoir des mesures qui mettent à contribution les revenus les plus élevés ou les entreprises, ah bah ça, c'est complètement flou.
Allusion à peine voilée à la fraude fiscale aussi, celle-ci, qui ne sera pas oubliée, promet la ministre, mais ce volet à part fera l'objet d'une communication plus tard de la part des équipes de Bercy.
Maxime Debs, service économie de France Inter. C'est un secteur qui ne connaît pas la crise. Les paquebots de croisière attirent de plus en plus de vacanciers à travers le monde. En 10 ans, la fréquentation de ces bateaux, toujours plus gros, a bondi de 57%. L'une des clés du succès, séduire les familles et un public plus jeune. Reportage à Marseille, premier port de croisière en France. Mathilde Vinceneuve.
Dans le quartier du Panier à Marseille, les visites guidées de croisiéristes s'enchaînent.
So you see it's a beautiful district.
Dans la foule, Ricardo et sa famille, des Italiens, c'est leur premier voyage en croisière, une semaine en Méditerranée.
Nous avons visité Palerme, Ibiza, Valence, aujourd'hui Marseille, demain Gênes.
Visiter une ville par jour et profiter de la vie à bord, c'est ce qu'aime Teresa, elle vient du Luxembourg.
Les croisières, ça me permet de ne pas m'ennuyer, et surtout sur le bateau aussi. Celui-là que nous on a, il y a même un aquapark. Il y a les restaurants, il y a plein de boutiques, tax-free, les sacs de luxe moins chers. Donc oui, c'est vrai que c'est pas bon pour la planète, mais on travaille toute l'année, il faut quand même qu'on puisse s'évader un petit peu.
Les réservations pour des croisières ne cessent d'augmenter, constate Caroline Bellegarde de l'agence Havas Voyage, une agence qui affiche en vitrine la maquette d'un paquebot capable d'accueillir 6500 passagers.
Avant, c'était plus des couples qui partaient, des retraités par exemple, et maintenant, il y a de plus en plus de familles intéressées pour ce type de croisière.
Le public rajeunit, confirme Jean-François Suas, vice-président de l'association Marseille-Provence Croisière.
La moyenne d'âge est 44 ans et 36% des croisiéristes ont moins de 30 ans.
Le succès est là, malgré les critiques sur la pollution. Pour limiter les fumées des bateaux en escale, le port de Marseille a prévu d'électrifier les quais croisières à partir de l'an prochain.
Et en moyenne, un seul de ces navires émet chaque année 20 000 tonnes de CO2. Une panne qui tombe mal en pleine période estivale, propice au trajet, le trafic SNCF fortement perturbé. Sur la ligne à grande vitesse nord, des retards de 30 minutes à 2 heures sur les TGV Ouigo et Eurostar. France Inter, il est 13h13, des Bleus de Chauffe. Les basketteurs français entament aujourd'hui leur tournée de matchs de préparation. Première rencontre ce soir à La Roche-sur-Yon face au Monténégro. À 24 jours du premier match de l'Euro en Pologne et un an après l'argent au JO, l'équipe François Ventéjou est bien remodelée.
De la finale olympique, il ne sont que 5 rescapés dans cette équipe de France version 2025. Certains ont pris leur retraite internationale, comme Nicolas Batum. D'autres sont blessés, c'est le cas de Victor Wembanyama. Sur le banc aussi, Vincent Collet a été remplacé par Frédéric Fautou, bien conscient du chantier.
Il y a beaucoup de secteurs qui repartent de zéro. Puis quand on a des absents majeurs comme ça, je pense qu'on a moins de marge aussi que s'ils étaient là. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à construire. Un groupe, une équipe, une hiérarchie aussi.
Sur les 18 joueurs retenus pour la préparation, il n'y en aura que 12 pour la compétition. Même inexpérimentée, la France, qui est vice-championne olympique, n'a pas le droit de se rater pour le nouveau capitaine, Gershon Yabusele.
On sait voilà, ce qu'on a fait des dernières années, ça nous a aussi beaucoup aidé. Donc je pense vraiment qu'il y a quelque chose d'assez important à faire, mais il ne faut pas se mettre de pression. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à se comprendre, à être tous sur la même longueur d'onde, et vraiment qu'on reste positif et qu'on essaie de chercher la meilleure médaille.
Avant le début de l'Euro, 5 matchs amicaux sont prévus avec notamment une double confrontation face aux Espagnols, champions d'Europe en titre.
Début de la rencontre à 21h face au Monténégro. Et puis un titre, disons-le, inattendu. Le rappeur marseillais Jul au cœur de la polémique sur les réseaux sociaux pour Toi et moi. C'est le nom de cette chanson qui ressemble plutôt à une sérénade. Mais ce n'est pas ça qui fait jaser, Héloïse Roger.
La question que tout le monde se pose depuis sa sortie, Jul a-t-il utilisé l'intelligence artificielle pour produire ce son?
Quand je t'ai vu, ma chérie,
Tu m'as regardé dans les yeux.
Certains internautes le démontrent point par point, ils en sont sûrs et citent par exemple une qualité audio médiocre ou encore les chœurs à ce moment-là.
Quand j'ai vu ce visage, je savais que c'était toi.
Assez difficile à percevoir, mais pour ceux qui ont décortiqué le son, ils jugent les paroles mal prononcées, robotisées. Le mystère est encore entier et la situation est ironique parce que Jul a déjà évoqué le sujet dans Phénoménal, issu de son dernier album. De base, moi je suis Nia, ils veulent me remplacer par l'IA, traduction « je suis naïf, insouciant et on voudrait me remplacer par l'intelligence artificielle ». Et le titre fait aussi beaucoup réagir pour une toute autre raison. Depuis sa sortie, les fans voient une grande ressemblance avec les productions de Kenji Girac.
À ce moment-là, j'ai su que j'étais fou de toi.
Des accords de guitare, des sonorités gitanes, des paroles romantiques. Ça plaît pas, il n'empêche, toi et moi cartonne depuis sa sortie il y a 3 jours. 3e dans le top France sur Apple Music, 7e sur Deezer et 12e sur Spotify.
Voilà, l'IA partout, y compris dans les chansons. La météo au moins, c'est un vrai présentateur qui arrive.
La météo avec la MAE. À l'école ou en vacances, l'assurance scolaire MAE protège vos enfants par tous les temps. MAE, grandir avec assurance.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Fabien, bonjour à tous.
Après-midi chaud et bien ensoleillé.
Oui, le soleil s'imposera du Morbihan à la Nouvelle-Aquitaine jusqu'en Lorraine, en Alsace, au Jura et aux régions méditerranéennes. Un soleil qui sera tout de même parfois un peu atténué par des bandes de nuages élevés, notamment près des Pyrénées, en Corse ou encore du Roussillon aux Alpes et à la Côte d'Azur, ainsi que de la Franche-Comté aux frontières allemandes. Et puis le ciel sera un peu plus variable entre les Côtes d'Armor, la Normandie, le bassin parisien, la Picardie et les Ardennes. Les éclaircies vont s'élargir mais pourront parfois tarder à devenir prédominantes, notamment au nord de la Seine. En revanche, une perturbation est en approche près de la Manche. D'ailleurs, le vent devient plus sensible sur le littoral. Et cette perturbation va surtout balayer la moitié nord du pays cette nuit et demain. Mais pour cet après-midi, elle apporte déjà un ciel chargé et quelques gouttes sur le Finistère, le Cotentin, la Baie de Somme et le Nord-Pas-de-Calais. Et puis, c'est presque notable, mais ça faisait 2 semaines qu'à l'échelle nationale, les températures étaient stagnées légèrement sous les normales saisonnières. Et bien, pour aujourd'hui, elles repassent au-dessus avec de fortes chaleurs sur une large moitié sud et même de très fortes chaleurs dans le sud-ouest. D'ailleurs, cet après-midi, il fera jusqu'à 37 degrés à Cahors, 35 degrés à Toulouse, Pau et Mont-de-Marsan, mais aussi 34 degrés à Bordeaux et à Nîmes, 33 degrés à Limoges, 32 degrés à Perpignan, on attend 31 degrés à Marseille et à Tours, 30 degrés à Lyon et à Aurillac, 29 degrés pour Paris et Dijon, ou encore 28 degrés à Saint-Brieuc et à Strasbourg.
Sébastien Léas, merci à vous.